pourquoi j'écris. Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça. Terrible.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain.
Un anti-parlementaire.
Voilà, un muet, c'est un anti-parlementaire.
Un muet, c'est un anti-parlementaire.
Mais un athée.
Un athée, c'est un anti-moine.
Voilà, un croyant.
Aucun croyant, c'est un antiseptique.
Voilà. Et les Arabes du Caire
sont antisémites.
Et les sémites
sont anti-caire.
Voilà.
Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Du vent dans les pages. Une émission consacrée à la littérature dans tous ses états. Des chroniques, un plateau d'invités pour des causeries d'aventures livresques, des lectures poétiques en langues étrangères, sans oublier la musique. Alors jetez vos portables, brûlez votre télé et écoutez le bruissement du vent dans les pages sur Studio Zef.
Pages volantes, aventures et mésaventures littéraires.
Par Alex Dozier.
Jérôme K. Jérôme, trois hommes dans un bateau. Jérôme K. Jérôme aurait dû rester à jamais un écrivain inconnu, or il se vend chaque année des centaines de milliers d'exemplaires d'un des plus grands best-sellers de l'histoire, Trois hommes dans un bateau, auquel il faut ajouter son sous-titre, sans parler du chien. De quoi s'agit-il ? L'auteur raconte le voyage en canot de trois jeunes hommes accompagnés de leur chien sur une portion de la Tamise entre Kingston et Oxford. Difficile d'écrire un best-seller avec une telle intrigue. Ce qui est plus incroyable, c'est que Jérôme K. Jérôme faillit ne pas l'écrire du tout. Orphelin très jeune, Jérôme avait dû faire un grand nombre de petits métiers afin de survivre. Il n'avait pourtant jamais abandonné son goût pour l'écriture. Il avait fini par trouver un emploi d'instituteur qui lui laissait un peu plus de temps pour écrire et s'essayait dans différents genres. Il commence à obtenir de petits succès et propose à son éditeur Arrowsmith d'écrire un petit livre sur les bords de la Tamise. Choix étrange, mais pas si curieux. En effet, quelques années auparavant, l'État avait fermé la Haute Tamise à la navigation fluviale, et cette portion était devenue le royaume des amoureux du canotage et des dimanches au bord de la rivière. Écrire un petit ouvrage décrivant les berges, les paysages, les villages traversés, les pubs et les auberges trouverait certainement son public et assurerait ainsi un succès plus important à son auteur. L'éditeur était d'accord et l'auteur entreprend l'écriture de son ouvrage. Quelques semaines plus tard, Jérôme revient avec son manuscrit et le fait lire à son éditeur. Celui-ci ne lui cache pas que l'ouvrage est certes bien écrit, mais qu'il est particulièrement ennuyeux. Il lui conseille donc de pimenter le texte par le récit d'anecdotes qui rendraient l'ouvrage plus attrayant. Jérôme repart et rajoute des anecdotes souhaitées en imaginant ses trois personnages, qui sont en fait ses trois amis, et la présence du chien Mortimer. Le principe est qu'à chaque étape, l'un d'eux raconte une histoire dont il se souvient. Jérôme rapporte une seconde fois son manuscrit à Arrowsmith, qui ne peut s'empêcher d'éclater de rire à chaque histoire. Il lui propose de réduire au maximum les descriptions et de ne garder que les anecdotes. Un succès est né. Le livre paraîtra en 1889. C'est un succès populaire immédiat. On estimera à 1 million le nombre d'exemplaires pirates circulant dans le monde à cette époque. Arrowsmith, devant la demande croissante des libraires, déclarera que les lecteurs devaient certainement manger les livres. À quoi est dû ce succès ? Jérôme K. Jérôme était un être assez pessimiste et triste, ayant une vision fataliste de l'homme et du monde. En développant un style paradoxal, toujours très sérieux mais aux limites de l'absurde, il décrit dans un style simple et direct, d'une redoutable efficacité, les avatars de l'existence en les considérant comme réalistes, ce qui est une force comique assurée. Il peut ainsi décrire les incohérences du genre humain et de la société sous l'angle du comique de la situation. Lui-même, héritier des grands auteurs du nonsense anglais qui avaient pour but de décrire avec des outils logiques l'absurde comme étant la réalité, il a inspiré de nombreux auteurs du XXe siècle par son style direct et le fait de s'adresser directement au lecteur. Si vous n'avez que le temps de lire un seul chapitre de Troisième dans un bateau, il faut lire celui où l'oncle Podger accroche un tableau. C'est l'un des plus grands moments d'histoire comique jamais écrit. Jérôme K. Jérôme, Trois hommes dans un bateau, impossible de ne pas le trouver en librairie, peut-être est-il déjà présent dans le grenier de votre grand-mère.
Au large, les barges se gondolent dans le roulis. Ici en cuir au bain-marie, un coup je te lave, un coup tu m'essuies. Ici on se botte, on se débecte, et les mouettes se délectent de nos anecdotes. Au large, les barges se gondolent dans le roulis. Si on suit des bikinis, les jours de grève, le sable s'ennuie. On se prélasse dans les grandes surfaces, là où se pressent les huiles et les bigorneaux. J'écume, je m'enrhume. J'ai cuillé, éternué, te retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui. Les barges se gondolent dans le roulis. Et si on jouit avec la petite du bord de mer dans mon jacuzzi, du premier jet j'ai tout gardé, puis j'ai mélangé le léger, le corset. J'ai de retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui.
Dans les pages sur Studio Zef. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Studio Zef pour cette première émission du Vent dans les pages, une émission consacrée à la littérature dans tous ses états et à celles et ceux qui la font vivre. Alors aujourd'hui on est à la maison de la BD, chaleureusement accueillis. Mes invités autour de moi sont le directeur, comme ça on dit, directeur, président, chef.
Directeur.
Voilà.
le directeur, donc Bruno, à ses côtés Sébastien.
C'est ça.
À ses côtés Mathilde. Et nous avons un invité surprise que je vous présenterai en fin d'émission. Voilà. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Ça va ?
Ça va, oui, ouais. pas de
soucis.
C'est
la fin de journée, là, en fait.
Un peu, oui. Ouais,
très bien. Bruno, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née la Maison de la BD ? Qu'est-ce qui justifie un peu ce projet ? Qu'est-ce qui a motivé ? Dans quel esprit est né ce projet ?
Tout d'abord, il faut parler de BD Boom. Donc BD Boom, c'est une association qui gère un festival de bande dessinée depuis une trentaine d'années. Mais c'est vrai que l'activité de BD Boom s'était amplifiée déjà depuis quelques années, avec notamment des activités scolaires, de la location, de la création d'expositions. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de lieu, notamment de lieu d'accueil ou de lieu de diffusion. Donc on a eu une proposition de la mairie de Blois il y a quelques années, en nous proposant ce lieu, rue des Jacobins, et puis savoir si on pouvait proposer un projet. Donc on a appelé ça assez rapidement une maison de la bande dessinée. On a gardé ce nom. Donc en fait, la maison de la bande dessinée, c'est une triple vocation. C'est tout à fait d'abord l'éducation à la bande dessinée. Donc avec notamment deux collègues, Sébastien qui aura l'occasion de parler tout à l'heure, et puis Alain Dougry qui est un enseignant mis à disposition une journée par semaine, puis épaulé aussi par une autre collègue, Nathalie Henkel. Et avec des accueils de scolaires sur des modules, soit à la journée, soit à la demi-journée, donc soit du dessin numérique, scénario, etc. Quelquefois avec des interventions des auteurs de l'atelier moquette. Ce sont aussi des cours de pratique artistique, le mercredi avec les enfants, les adolescents, maintenant le jeudi soir avec les adultes, et puis un atelier d'illustration chaque samedi matin. Donc voilà pour le premier volet. Le deuxième volet, c'est un lieu de diffusion avec des expositions, donc deux à trois expositions simultanément à la maison de la bande dessinée. Donc là, actuellement, on fait une petite entorse à la bande dessinée dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Blois et plus particulièrement le service Ville d'Art et d'Histoire sur Destination Blois, une association qui évoque le tourisme depuis trois siècles à Blois, tout en sachant que le fil conducteur, si ce n'est pas la bande dessinée, reste quand même l'image. Et puis le troisième objectif, c'est la création, donc avec l'atelier moquette, donc un atelier d'auteur. La création, c'est aussi avec l'accueil d'auteurs en résidence, donc on a deux à trois auteurs chaque année en résidence. Et puis, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, de l'édition, puisque chaque année, nous sortons un album. Voilà les grandes lignes de la maison de la bande dessinée, donc qui est ouverte depuis maintenant un an et demi, depuis plus particulièrement février 2015.
D'accord. Et pratiquement, donc vous êtes ouvert au public de tous les jours, quasiment tous les jours de la semaine, du mardi au samedi, je crois.
Oui, du mardi au samedi pour l'exposition, mm-hmm. et puis du lundi au samedi pour l'accueil de groupes, hein, donc les scolaires du lundi au vendredi, et puis pour des ateliers, notamment le samedi matin.
D'accord.
Et pratiquement toute l'année, avec juste une coupure en novembre. Donc ça, c'est dont on a besoin pour préparer le festival. Et puis une semaine pendant les vacances de Noël.
Sébastien, est-ce que vous pouvez nous parler de la partie pédagogie, c'est-à-dire, bon, c'est un mot qui englobe un peu beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, les ateliers destinés, si j'ai bien compris, au jeune public ?
Alors, sur la maison de la BD à proprement parler, en fait, c'est l'existence de 5-6 ateliers, même un peu plus d'ailleurs maintenant avec les ateliers d'auteurs, au contenu varié, s'adressant à différents types de publics qui peuvent aller du CP, CE1 jusqu'au lycée. On a différents types de modules autour de la bande dessinée, mais également aussi autour du dessin numérique, comme l'a précisé tout à l'heure Bruno, allant jusqu'au dessin de presse, par exemple, avec différentes strates de compréhension. Pour chaque atelier, on va renforcer le vocabulaire de manière à pouvoir le proposer à différentes tranches d'âge. Et chacun de ces ateliers a été longuement réfléchi avec toute une équipe pédagogique, pas uniquement moi, hein, mais comme l'a précisé tout à l'heure, notamment Bruno, un collègue enseignant qui est détaché, qui a participé à l'élaboration de ces contenus, avec également d'autres enseignants qui sont adhérents à l'association et qui ont pu nous aider, voilà, à affiner au plus près possible notre proposition pour qu'elle corresponde plus largement à la demande des enseignants. Mais pas que, parce que comme l'a précisé également Bruno, on a des accueils extrascolaires qui se font à l'année sur les temps de vacances avec des centres de loisirs par exemple. Donc on a des ateliers qui sont plus avec une entrée ludique et d'autres un peu plus avec une entrée pédagogique. Pour ma part, je gère plus spécifiquement l'accueil jeunesse. Je laisse la partie adulte à ma collègue, donc Mathilde, qui prendra la parole après, sur toute la partie médiation.
Voilà. D'accord. Mathilde, bah, c'est à vous. Hein.
Oui, donc, moi, je m'occupe effectivement, comme l'a dit Sébastien, du public adulte, notamment les publics éloignés des pratiques électorales, donc pour diverses raisons sociales. Nous, on travaille par exemple avec les centres sociaux. On a un projet à l'année avec les jeunes des structures de la protection judiciaire de la jeunesse, avec les auteurs de l'atelier Moquette notamment.
On reviendra sur l'atelier Moquette parce que depuis tout à l'heure, on vous en parlait, mais on sait pas très bien ce que c'est.
On en parlera. Oui. Et donc, moi, je coordonne notamment pour le festival qui arrive, une journée BD pour tous, donc justement destinée à ces publics-là. Et je m'occupe également des résidences d'artistes, des résidences d'auteurs, donc la dernière résidence avec Armel Modéré et la prochaine qui commence le 3 octobre avec Bernard Grandjean.
D'accord. Et alors concrètement, justement, à propos de ces résidences d'auteurs, vous accueillez, alors bon, on entend parler en musique, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous accueillez l'auteur dans vos locaux pour une période déterminée avec un projet précis. Comment ça se passe concrètement avec un...
Concrètement, ouais. Là, il s'agit d'auteurs qui ont des projets d'écriture. Donc Bernard Grandjean, dans le cas de Bernard Grandjean, il vient pour un projet d'écriture pendant 2 mois. Et la résidence se fait donc dans les locaux de la Maison de la Bande Dessinée. Et il doit permettre la réalisation de ce projet-là, donc, dont le titre provisoire est Camille et César.
D'accord.
Donc voilà, on va voir le projet émerger.
D'accord. Et c'est ce genre de projet, c'est vous plutôt qui sollicitez les auteurs ou vous avez aussi des demandes particulières, des intérêts
Alors j'ai envie de dire les deux. Il y a différents cas. D'abord, les résidences, elles sont liées à des financements, soit cycliques, donc qui, pour simplifier, c'est l'Agence régionale du livre, ou soit le Centre national du livre. Donc en fait, il y a un dossier qui est déposé. Et donc le projet est retenu ou pas, et à partir de là, ça veut dire que si le projet est retenu, il y a une bourse pour l'auteur. En général, c'est 1 500 € net par mois, et à charge pour l'auteur de faire un certain nombre d'animations littéraires, c'est-à-dire de rendre en fait un peu cette expérience professionnelle. Lié à la résidence, mais pas forcément, pour évoquer avec certains publics, ça peut être des enfants, mais ça peut être les publics empêchés, pour parler soit de son travail, de son métier d'auteur ou de son projet. Donc là, c'est par exemple avec Armel, on avait travaillé, elle avait notamment un projet autour des Justes, un album jeunesse. Donc là, elle a rencontré le Cercil, elle a rencontré Pierre Almond Thomas, elle a rencontré Musée de la Résistance. Et en fait, toutes ces rencontres lui ont permis en fait d'enrichir en fait son album. Et en contrepartie, elle a fait des interventions auprès de classes, auprès d'adultes aussi. Quoi. Voilà le principe de la résidence. Donc en général, c'est 2 résidences par an, tout en sachant que ce sont des périodes assez longues. Pour Armel, c'était 4 mois, et pour Bernard Grandjean, ce sera 2 mois.
En général, ce sont des jeunes auteurs qui démarrent, ou c'est plutôt des gens qui ont de l'expérience déjà, qui ont fait des albums, qui,
pas forcément. Alors, il y a différents cas de figure. Quelquefois, ce sont donc des auteurs qui nous sollicitent. Quelquefois, c'est des auteurs que l'on connaît et puis qui ont besoin aussi de, ben voilà, d'un coup de pouce, hein, parce que c'est ça aussi une résidence. Oui. C'est-à-dire que il y a évidemment le projet d'écriture, mais ça veut dire que quand on est auteur aujourd'hui, quelquefois on a un peu de mal à gagner sa vie, et c'est vrai que l'obtention d'une bourse, ben ça met du beurre dans les épinards.
Sébastien, j'avais envie de revenir sur le côté travail avec la jeunesse, notamment dans les classes, avec les enseignants. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous, personnellement, par exemple, vous intervenez dans les classes avec un projet précis? Est-ce que c'est les enseignants qui vous demandent des choses très précises sur, par exemple, une année? Enfin, comment ça se passe dans le temps?
Alors, il y a différentes possibilités. Effectivement, nous, on a un contenu qui peut répondre à des demandes voilà, très classiques. Le module, l'atelier dont je parlais tout à l'heure, avec différentes entrées, dessins de presse, illustrations, bandes dessinées. Mais on peut aussi répondre à la demande, à des projets très précis. Si l'enseignant travaille, je ne sais pas moi, sur les fables de La Fontaine, on peut travailler, nous, sur une adaptation d'une fable de La Fontaine en bande dessinée. C'est un exemple. Je le cite celui-ci parce que ça s'est déjà fait par le passé. Des interventions au sein des écoles. Alors ça, c'était le gros de nos interventions avant l'existence, la mise en place de la structure Maison de la BD. Aujourd'hui, on a un équipement qui accueille prioritairement les classes au sein même de la structure, et nous, ça peut nous arriver, alors je dis nous, moi ou éventuellement les auteurs, d'intervenir en extérieur, mais on priorise l'accueil sur le site.
Géographiquement, vous intervenez sur Blois et ses environs, ou ça peut être plus loin?
Alors le plus loin que j'ai dû faire, c'était pas loin d'Angoulême.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Okay. Où les enseignants n'avaient pas réussi à trouver leurs chaussures à leurs pieds à Angoulême.
Oui, c'est quand même étonnant.
Et chercher sur Blois.
Bien, Sébastien.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, en plus, les enseignants n'avaient pas réussi à trouver chaussures à leurs pieds sur Angoulême, et donc étaient venus chercher sur Blois des interventions pédagogiques. Donc ça, c'est plus loin qu'on ait pu faire. Maintenant, on ne fait plus trop d'interventions en extérieur depuis qu'on a la maison de la bande dessinée. Donc il y a un équipement à faire vivre, et qui plus est, on a tout ce qu'il faut là pour pouvoir faire un accueil vraiment de qualité. On a différentes salles qui sont dédiées à l'accueil pédagogique, une grande salle avec un TBI dans laquelle nous nous trouvons actuellement, une salle en ouverture de la maison de la BD avec 15 postes numériques équipés de Photoshop éléments plus tablettes graphiques avec stylet. C'est des conditions que je ne trouverais pas moi dans une école pour intervenir. Alors on peut faire au cas par cas des interventions sur les écoles qui sont le plus éloignées, parce qu'après il y a toujours des frais de déplacement qui peuvent éventuellement ralentir un peu les projets des classes, enfin des structures les plus modestes. Mais sinon, le gros de notre accueil pédagogique se fait ici à la maison de la BD à l'année. Donc les enseignants nous contactent, nous sollicitent soit sur un module clé en main, tout prêt, soit sur un projet, on discute avec eux de comment ça peut s'organiser, sur combien de séances, sur quelle période, et puis après, on les accueille au cas par cas, en fonction de leur demande.
Mathilde, ça se passe à peu près de la même manière pour le public en difficulté?
Moi, le gros de ce dont je me charge à l'année, disons, hors du festival, c'est le projet avec la protection judiciaire de la jeunesse. Et ce projet-là, il est financé par la DRAC. Donc c'est vraiment un projet spécifique avec les jeunes de ces structures-là qui viennent donc à l'année en contact avec les structures, et on leur fait un petit peu des interventions appropriées, adaptées à ce qu'ils nous demandent.
Ils sont dans quel contexte?
Alors ça dépend des structures.
Ouais.
On a des jeunes qui sont soit dans des situations familiales compliquées, soit avec déjà une procédure judiciaire. Enfin, ça dépend en fait vraiment des structures, mais ce sont plutôt des jeunes qui n'ont pas, pas vraiment accès à ce type d'intervention en général.
Alors quand vous arrivez avec vos projets, si je puis dire, est-ce que il y a un temps, j'imagine, d'adaptation pour eux?
Oui,
c'est pas forcément facile au départ,
oui.
J'imagine.
Il y a un temps d'adaptation. Ouais. Il y a des premières séances qui se font, des liens qui se créent avec les auteurs. Je pense que il y a une certaine personne qui pourra en parler
tout à fait
tout à l'heure. Voilà, ça se crée au fur et à mesure. Nous, effectivement, comme le disait Sébastien, on a aussi des équipements sur la maison de la BD qui sont de très grande qualité. Et donc, les jeunes peuvent avoir accès à ces outils-là. Par exemple, je pense à l'atelier numérique qu'on peut faire ici à la maison de la BD et qui est une vraie opportunité pour ces jeunes-là qui n'ont pas forcément accès à ces outils-là.
J'aimerais maintenant, si vous voulez bien, qu'on aborde l'événement blésois du mois d'octobre, c'est-à-dire les rendez-vous de l'histoire. Alors, vous êtes partenaire, comme on dit
On est partenaire.
Vous êtes partenaire,
ouais. Alors, depuis longtemps, d'ailleurs, puisqu'il y a un prix de la BD historique, donc il y a un membre de BD Boom qui participe au jury chaque année. Et chaque année, le BD Boom réalise cette exposition du lauréat du prix de la BD historique. Donc ça, depuis, je pense, une bonne dizaine d'années. Alors c'est vrai qu'avec la maison de la BD, là, ça a pris une autre vitesse, hein, puisqu'il y avait déjà quelques rencontres bande dessinée au sein des rendez-vous de l'histoire. Et en fait, on a été sollicité. Puis nous, on l'a proposé aussi, quoi. Il y avait un intérêt commun pour que toutes les conférences et rencontres autour de la bande dessinée soit à la maison de la bande dessinée. Donc ça veut dire que pour le... Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail du programme, mais ça veut dire que le vendredi, le samedi et le dimanche des rendez-vous de l'histoire, il y aura environ une dizaine de rencontres ici. Donc on peut retrouver le programme sur le site soit des rendez-vous de l'histoire, soit de BD Boom. Avec notamment des auteurs, on peut citer Emmanuel Lepage, Florent Siloré, Chris, donc voilà, avec des interventions assez différentes, hein, soit des tables rondes, soit des conférences. Mais voilà, donc ça, c'est nous une activité qui est aussi un peu le prolongement de la maison de la bande dessinée, puisque nous, chaque mois de janvier à juin, on organise aussi les jeudis bande dessinée, donc des rencontres autour d'une thématique, donc je pense qu'on est dans ce prolongement.
Vous êtes visible sur le site des rendez-vous d'histoire, ou est-ce que tout se passe à la maison de la BD quand...
Alors tout ce qui est bande dessinée, nous, le programme des rendez-vous d'histoire, on le retrouvera spécifiquement sur le site de la maison de la bande dessinée, si
D'accord.
on veut s'y retrouver,
oui,
plus,
voilà.
plus facilement. Mmh. Après, dans le programme, dans l'ensemble du programme des rendez-vous d'histoire, on va retrouver les interventions autour de la bande dessinée, dont la majorité se fait à la bande dessinée.
Je rappelle quand même que le président du Salon du Livre, c'est quand même un auteur de BD.
Voilà, Riyad Satouf.
C'est une première, je crois. Hein.
Je crois que c'est une première. Riyad Satouf, d'ailleurs, qu'on avait primé à BD Boom, j'en profite pour le dire, puisqu'il avait eu le prix Jacques Loeb il y a une petite dizaine d'années.
Et votre prochaine actualité, ça sera au mois de novembre avec le festival BD Boom.
Le festival, donc 33e édition, donc voilà, avec un programme que l'on connaît, qu'on a déjà dévoilé, donc avec une dizaine d'expositions, donc Nicolas de Crécy, le grand Boom.
L'affiche, c'est de lui. Hein,
c'est lui, hein, c'est Nicolas de Crécy, donc le fantôme au milieu du château. Donc Nicolas de Crécy qui sera présenté, son travail sera présenté à la maison de la bande dessinée. Donc pendant un mois, du 18 novembre au 17 décembre. Et puis on aura d'autres expositions, donc c'est Piem, donc un dessinateur de presse, qu'on a connu en tout cas pour les plus vieux d'entre nous à la télévision dans les années 75, 76, 77, dans ces eaux-là. Et puis, donc ça, la maison de la bande dessinée. Et puis, on aura à la Halograin donc une exposition Torgal. Donc c'est l'occasion, quoi, on fait cette exposition à l'occasion de la sortie du tome 38 de Torgal. Donc là, il y aura une nouveauté, donc avec des présentations du dernier album, mais pas uniquement. Donc ce qui veut dire aussi la présence de Rosinski, le dessinateur, et puis d'Horizon, le nouveau scénariste, et puis d'autres expos avec Iroquois, Patrick Prung, Philippe Xavier, Ulysse, les champs du retour, là, dans le cadre d'un partenariat et rendez-vous d'histoire, de l'expo jeunesse avec Histoire de Poirot, avec Olivier Supiot et Le Cheval qui ne voulait plus être une œuvre d'art, en collaboration avec le musée du Louvre, et puis Arthur ou la vie de Château. Donc voilà une dizaine d'expositions, environ 200 auteurs. Alors une des nouveautés cette année, ce sera le rapatriement de l'espace jeunesse à la Maison de la Bande Dessinée. C'est-à-dire que les années précédentes, on était à la Fabrique, et puis on voulait rapatrier l'espace jeunesse à la Maison de la Bande Dessinée, parce qu'effectivement, c'est quand même le lieu où on va faire de l'activité pédagogique tout au cours de l'année, et que c'était dommage, bah justement pour le festival qui est le temps fort de l'association, de le faire à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça sera aussi une nouvelle organisation. Tout en sachant que l'espace jeunesse ne se résume pas à l'activité de la Maison de la Bande Dessinée le week-end, mais avec notamment une programmation, avec un spectacle notamment, même le samedi. L'adaptation d'une bande dessinée qui s'appelle Super, et puis même le dimanche avec La Fée et le Fantôme. Et voilà, des activités qui malheureusement avaient été annulées l'an dernier, parce qu'il faut se rappeler que le festival l'an dernier avait été un peu particulier, puisque c'était 8 jours après les attentats du 13 novembre, que la journée pédagogique avait été annulée, comme toutes les sorties scolaires avaient été annulées, et c'est au niveau de la France. Donc voilà, donc il y aura, voilà, c'est un peu pour nous, ça, voilà, il y aura quelque chose de particulier cette année, parce que c'est vrai qu'il y a une frustration l'an dernier de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu. Donc, et donc effectivement, des interventions qui initialement étaient prévues l'an passé auront lieu cette année.
Si je comprends bien, vous avez une activité absolument débordante, et avec cet emploi du temps, vous avez le temps de lire de la BD et autre chose, messieurs, dames?
Pour ma part, moi je coordonne alors maintenant plus deux prix jeunesse, mais un, et je soutiens mon collègue enseignant sur l'autre. On est obligé de se tenir au courant, effectivement, puisque à plus forte raison qu'on reçoit nous des auteurs, et il faut qu'on puisse savoir un petit peu, connaître leur actualité, le contenu de leur production. À plus forte raison que moi, je suis souvent interpellé par les enseignants pour savoir qui je vais leur faire rencontrer, et que je sois en mesure de pouvoir leur expliquer un petit peu le contenu et à partir de quelle tranche d'âge c'est adapté. Donc oui, on essaie de trouver ce temps-là.
Oui.
Il faut.
C'est important, Mathilde.
Ouais. Je confirme. Ah ouais. On prend le temps de dire toutes les sorties. Ouais, ouais.
Je tiens quand même à préciser que vous avez également une petite salle de lecture, où il y a des bandes dessinées à disposition du public. C'est quelque chose qui va être en prévision d'agrandir, ou ça va rester un peu comme ça, ou juste pour la visite du public, est-ce que vous avez pensé à quelque chose d'autre ou...
Alors ça évoluera peut-être, mais ouais. pour l'instant, a priori, non. C'est-à-dire qu'il y a deux petits lieux pour la lecture. Il y a le centre ressources, où là on va avoir de la documentation sur de la bande dessinée, et notamment les valises pédagogiques qui sont mises à disposition des enseignants. Et puis une autre salle, donc il n'y a pas de prêt, on n'est pas une bibliothèque, ça c'est important de le rappeler. Donc oui, je pense qu'au fur et à mesure des années, on aura un petit peu plus d'ouvrages. Donc après, je ne sais pas comment on va le gérer. Donc peut-être qu'on fera peut-être un tri, je ne sais pas, ou est-ce qu'on agrandira, je ne sais pas. Toujours est-il que on n'est pas dans l'immobilité, c'est pour ça qu'après il y aura des choses qui vont en fonction des un peu des souhaits du public, puis nous du projet, comment il va avancer. Toujours est-il qu'on on peut dire que, et ça on peut l'annoncer, que pour l'an prochain, on aura une nouvelle salle d'exposition. Ça, c'était un souhait du public. C'est-à-dire qu'on nous a dit c'est dommage qu'il n'y ait pas de salle consacrée à l'histoire de la bande dessinée. Et ce qui n'était pas forcément un objectif, hein, c'est-à-dire que nous, on voulait plutôt faire découvrir un auteur à travers ses œuvres. Donc on a cette opportunité de faire des travaux, donc début octobre, ça commence le 10, et on ouvrira une nouvelle exposition sur l'histoire de la bande dessinée en mars 2017, voilà, à l'occasion du deuxième anniversaire de la Maison de la BD.
Actuellement, il y a aussi une exposition qui s'appelle Immigrants.
Oui.
Voilà, ok. Je suis passée là vite fait, vous pouvez nous en dire un petit mot?
Ça fait partie de la politique éditoriale de BD Boom. On parlait tout à l'heure du volet création, et depuis pratiquement une vingtaine d'années, BD Boom s'est lancé dans un projet éditorial, notamment les premières années avec la Maison d'Arrêt de Blois, avec la trilogie Parole de Tôle, Parole de Tôlard, Parole de Parloir. Donc on est sur de la BD témoignage. C'est important de rappeler qu'on était quand même dans les premiers. C'est vrai que la BD reportage en poupe depuis quand même quelques années. Il y a 20 ans, il n'y avait pas grand monde qui faisait de la bande dessinée, et notamment en France. Il y avait Joe Sacco aux États-Unis, mais il n'y avait pas grand monde qui... Donc je trouve que c'est toujours important de le rappeler. Et donc dans cet esprit-là, on avait fait Immigrants, donc c'était une coprod avec les Rendez-vous de l'Histoire et avec la Cité d'Immigration, et donc on avait choisi ce thème, voilà, avec l'association pour un certain nombre de raisons, et on avait travaillé avec des associations de Blois, avec la Maison de Bégon, avec France Terre d'Asile, avec France Asie Culture, avec le CAN 41. Et donc la majorité du livre, ce sont des témoignages de Blaisois ou de Loir-et-Cherien, tout en sachant que le propos, il est plus universel. Voilà, c'est d'avoir des parcours d'immigration qui sont évoqués en bande dessinée. On avait en parallèle des contributions d'historiens, notamment de Gérard Noiriel, et puis d'autres contributions d'historiens, tout en sachant que les contributions ne sont pas des contrepoints des reportages dessinés. Voilà, ce sont des apports supplémentaires. Et donc voilà, chaque année on fait on continue dans cette veine de BD témoignages ou de BD jeunesse avec des fictions mais sur des thématiques sociales.
Avant de passer à notre invité pour la fin de cette émission, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Sébastien, sur le fonctionnement de la Maison de la BD, vos projets?
Rien de particulier. On peut peut-être parler, revenir juste sur la journée scolaire donc de BD Boom, ouais. Qui est quand même la journée de lancement du festival. Préciser que depuis maintenant quelques années, elle va en augmentant en volume, et donc aujourd'hui on est en capacité d'accueil à peu près autour de 90, et l'an dernier on avait presque 120 classes qui venaient sur site, donc ça tourne autour de 2500 élèves, c'est quand même pas rien. Et je tenais à le préciser parce qu'il y a toute une équipe qui est sur le pont, je suis pas tout seul, heureusement d'ailleurs, il y a une grande majeure partie de nos adhérents et de nos bénévoles qui viennent et nous donner un coup de main, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, pour faire vivre cette journée vraiment exceptionnelle aux enfants, parce que la plupart du temps les enfants gardent un très très bon souvenir. Ceux que je rencontre après coup généralement n'arrêtent pas d'en parler. Et voilà, je tenais à le préciser parce que c'est quand même vraiment un temps très très fort dans le festival, même s'il y a d'autres temps dans le week-end. Mais voilà, c'est quand même une grosse journée, et je tenais à préciser qu'il y a quand même pas mal de monde sur le pont, quoi.
Donc cette année, ça sera le vendredi 7...
18.
18.
18 novembre.
18 novembre.
Vendredi 18 novembre.
D'accord. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Enoch. Je prononce bien, ça va?
Bonjour.
Bonjour. Ouais, il s'installe devant le micro.
Attends, j'avais coupé le micro. Ah,
d'accord.
Pour prendre la présentation, je pense.
Bonjour. Voilà. Alors, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, vous présenter voilà, vous êtes dessinateur, auteur, animateur, enfin, oui, plein de choses.
Oui, voilà, plein de choses. J'essaye de tout faire, quoi. Oui.
Alors, votre partenariat avec la Maison de la BD, d'abord.
Bah, mon partenariat avec la Maison de la BD, bah, c'est... bah, on va dire que je fais partie de l'atelier Moquette. Donc,
l'atelier Moquette.
Qui était un projet, justement, bah, Bruno pourra mieux en parler.
Mais, il a trop parlé, Bruno. Donc, présentez-nous l'atelier Moquette.
Donc, le principe, l'atelier Moquette se trouve dans les locaux de la Maison de la BD. Donc, le principe, c'est bah, d'accueillir des auteurs, bah, plus ou moins comme moi, qui débutent en quelque sorte dans le milieu de la BD, et puis bah, voilà, participer à la vie de la Maison de la BD en accueillant justement des écoles, faire des stages, voilà, quoi, être un petit peu investi quand même dans la vie de la Maison de la BD. Quoi. Et donc, dans l'atelier, on est quatre, si je ne me trompe pas. Donc, moi, Ambroise, Annie Boutemi et Fabrice Lebeau qui vient de temps en temps. Donc l'atelier est mis à disposition en fait bah, la plupart des personnes qui travaillent dans l'atelier. Donc voilà, on vient travailler sur nos projets ou même des fois des projets liés avec BD Boom. Donc voilà, c'est un lieu de travail vraiment pour rencontrer déjà du monde, ne pas rester seul dans son coin et c'est vraiment de l'échange en fait, essayer de partir sur un principe d'échange et apprendre des autres aussi. Et donc à côté de ça, voilà, on est sollicité par la Maison de la BD. Donc des fois, moi je participe sur des projets avec Seb. Là notamment, on a travaillé sur la BD Arthur ou la vie de château. Donc Sébastien au scénario et moi au dessin. Donc c'était la première fois que je faisais ça, c'était plutôt intéressant, c'était aussi un défi, mais... voilà, c'est pour ça aussi que je suis là, pour pouvoir avoir d'autres choses, quoi, des opportunités, tester des choses, et c'est vraiment très très intéressant.
Tester des choses au niveau, alors bien sûr, la rencontre humaine, c'est
oui, et puis même pour mon parcours aussi.
Et pour votre parcours, voilà.
C'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Donc par exemple, comme les ateliers que je donne le mercredi, je faisais déjà des stages l'année dernière, et cette année, en fait, je donne vraiment des cours voilà, le mercredi. Et bah, c'est, on va dire, c'est un peu la première fois vraiment que j'ai des cours comme ça réguliers. Donc, je dois essayer d'apporter un peu mon savoir, du coup, aussi à des gens qui sont passionnés par le dessin, leur donner envie, voilà, quoi, et découvrir aussi ce qu'ils peuvent m'apporter. Parce qu'au final, c'est ça aussi qui est intéressant.
Et pourquoi Moquette, alors ? On va me le dire, oui.
L'atelier Moquette. Et bah, c'est tout simple en fait, c'est que c'est une des seules salles où il y a de la moquette dans la Maison de la
tout
BD.
Tout simplement.
Voilà. Donc Atelier Moquette qui a un an maintenant, mmh. Doit être ça. Mmh. Un an qui va bientôt sur ses 2 ans, un petit peu aussi avant le festival. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose et puis essayer de rebooster, on va dire, un petit peu plus l'atelier parce que c'est vrai qu'en ce moment tout le monde est un petit peu à droite à gauche. Mmh. Moi je suis notamment en phase d'écriture et. Donc voilà, quoi, essayer de repartir. Donc chacun a vraiment ses projets aussi.
Oui, alors c'est ça. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Est-ce que vous avez un projet individuel en rapport avec finalement une production finale qu'on pourra voir ici ou ailleurs ? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'assez personnel dans votre cheminement de dessinateur ?
Après, pour moi, en fait, je pense que ce sera plus quelque chose bah, qu'on pourra... voir aussi à la Maison de la BD. Mais sinon après pour les autres je sais pas, je sais que moi quand j'aurai commencé à bosser sur mes plans je travaillerai ici, donc après je sais pas où ça va aboutir, mais c'est un projet personnel mais après qui pourra être diffusé aussi, donc parce que l'objectif c'est quand même voilà, d'essayer d'avoir un public, de se faire connaître justement par rapport à sa création. Donc après il y a d'autres projets en dehors aussi de la Maison de la BD avec d'autres personnes qui pourront peut-être être intéressants du coup à mettre en avant la Maison de la BD, je ne sais pas du tout. Mais là c'est vrai que oui, en termes de projet de bande dessinée, oui, après si ça peut être utilisé, je sais pas, peut-être pour un atelier ou autre, je dis bah non, quoi, c'est voilà.
Et votre actualité à vous, par rapport, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à écrire quelque chose sortir un album
Comme tout à l'heure, je parlais bah, de l'album sur lequel j'ai travaillé avec Seb, qui était qui était plutôt cool parce que travailler avec Seb, c'était la première fois. Donc travailler aussi avec un scénariste, parce que d'habitude j'ai toujours eu l'habitude en fait de travailler seul dans mon coin, même déjà au lycée, voilà, les travaux de groupe, j'essaie toujours de mettre tout seul quoi. Mais au fur et à mesure en fait que j'ai travaillé dans l'animation, le dessin animé c'est un travail en groupe, donc forcément il faut être en coordination avec les autres. Et petit à petit, ça me forme en fait, ça m'apprend en fait certains mécanismes en fait pour travailler à plusieurs, et même quand je travaille seul au final, sur l'organisation, et puis même la manière dont je peux procéder si je demande l'aide de quelqu'un, donc il y a tout ça. Donc là actuellement, je travaille sur un projet de bande dessinée, donc là je suis en écriture, et ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup écrit, et ça me prend beaucoup de temps. Et donc voilà, quoi, faut que ça revienne. J'essaye de lire pas mal de bouquins qui correspondent à ce que je cherche. Et puis des fois la maison de la BD, quand j'ai besoin d'une référence ou d'autre chose, voilà, je peux demander à Seb ou je peux demander à Bruno une BD ou autre. Donc il y a ça aussi qui est plutôt agréable en fait ici, le fait de venir ici. C'est qu'on peut avoir des noms d'auteurs ou d'autres documents qui peuvent être pratiques pour ce que je fais. Et puis rencontrer du monde, comme je disais aussi, des auteurs comme Fabrice Médour qui donne des ateliers là, qui donne des ateliers le jeudi. Et donc je sais que c'est une rencontre qui peut aussi m'apporter quelque chose pour mon dessin, parce que je me sens pas totalement à l'aise non plus dans tout ce que je fais.
Pas encore. Ça va venir. Très bien, je vous remercie beaucoup pour ce petit récit de vie de dessinateur. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de tous ces projets. Enfin voilà, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. C'est bien qu'il y ait des lieux pour donner la possibilité aux jeunes gens de pouvoir s'épanouir dans leur créativité.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Il faut saisir les opportunités et puis ne pas laisser tomber, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas un métier. Évident, donc oui. Le tout c'est de se donner les moyens, et puis si ça casse, tant pis, mais c'est pas une raison d'abandonner. Et puis on avait déjà fait une émission d'ailleurs sur Studio Zef, oui. avec Ambroise justement, qui est dans l'atelier, et puis Christophe qui était aussi là dans l'atelier, et donc on pense peut-être refaire une autre émission sur la BD, je sens, pour essayer de faire découvrir aux gens en fait comment se passe vraiment en fait le milieu de la BD, les différentes techniques ou autre quoi.
Avec grand plaisir.
Voilà.
C'est noté. Merci à Bruno, Mathilde, Sébastien et Anok pour leur participation à ce plateau. Après une parenthèse musicale, l'émission continue avec la chronique d'Alice à l'abordage autour du livre de Gaël Giraud, Illusion financière, suivi de la rubrique Mométis où Timour vous bercera de poésie dans la langue de Pouchkine.
The vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait. K-Onda, TJ Cowboys hang around. Jack sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Massive insult to the rooster crows. Vatos Vergallos. Chevas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, little, run, do, run, run. In the midnight sun. Soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus.
What?
Yeah.
I'm going to LA. I'm taking a ceramic class. James Joyce. I saw Puppet at Tang's with a mullet and a popsicle. Hey, güero. Yeah, bro.
Du vent dans les pages. Sur Studio Zef.
Pour cette première chronique, nous partons à l'abordage d'un livre qui s'appelle Illusion financière de Gaël Giraud. Pourquoi lui ? Pourquoi ce livre ? Bien parce que Gaël Giraud, je l'ai rencontré, enfin bon, lui sur scène et moi assise dans le public, mais bon, c'est déjà ça, au rendez-vous de l'Histoire de Blois, le 11 octobre 2014. C'était à la Maison de la Magie et autour de la table, des invités allaient parler des rebelles de la théorie économique. D'où ma présence. Et là, au milieu d'universitaires bien mis, un type arrive, en chemisette et pantalon de toile, et surtout, nu-pied dans ses sandales. Ce qui, en ce début de mois d'octobre et sur la scène de la Maison de la Magie, m'a forcément interpellé. Alors Gaël Giraud, c'est un économiste, chercheur au CNRS, nommé meilleur jeune économiste par Le Monde en 2009, et accessoirement, économiste en chef de l'Agence française de développement, membre de l'ONG Finance Watch, de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'environnement, et jésuite. Bref, pas le premier venu dans le cercle des économistes. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Gaël Giraud, dans Illusion financière ? Ben que les banques se sont bien amusées à monter leur château de cartes jusqu'à ce qu'il s'écroule en 2008. Je vous rappelle pas le topo, les banques américaines accordaient des prêts immobiliers à des citoyens sans le sou, engageant ces prêts sur la valeur des maisons, considérant que cette valeur ne pouvait qu'augmenter. Donc si le Pékin ne pouvait pas rembourser son prêt, eh bien il n'avait qu'à vendre sa maison et hop, il s'y retrouvait. Oui, jusqu'à ce que le marché immobilier s'écroule et que tout le monde soit ruiné. Et pourquoi le mécanisme américain a fait basculer toute la planète ? Mais parce que tout simplement, les traders qui s'amusaient beaucoup avaient trouvé le moyen de refourguer leurs actifs pourris partout dans le monde en les divisant et en les cachant dans ce que Gaël Giraud appelle des millefeuilles bien appétissants, tout sucrés au-dessus. Et comme les actifs pourris étaient bien cachés dans le millefeuille, eh bien ils ne se voyaient pas. Et ces fameux millefeuilles, autrement appelés CDO, qui ne représentaient que 470 milliards de dollars en 2006, eh bien l'année suivante, ils explosaient à 2500 milliards de dollars, soit le PIB de la France. Bref, ça commençait à pourrir sérieusement au royaume de la finance dérégulée. Or, au début des années 2000, Gaël Giraud était consultant pour des banques d'investissement parisiennes, qu'il a commencé à alerter sur la dangerosité des fameux CDO. Ce à quoi on lui a répondu « Écoute mon garçon, tu nous casses les pieds, tu vois bien qu'on gagne tellement d'argent, pourquoi veux-tu nous empêcher de faire la fête ?»« Bah ouais, c'est vrai, ils sont pénibles ces rabat-joie. » Donc tout le monde savait que le château de cartes risquait de tomber, mais enfin tant qu'on s'amusait. La situation était telle que la plupart des banquiers ne comprenaient plus rien aux produits qu'ils échangeaient sur les marchés. De nouveaux produits ont même vu le jour, des CDS, des actifs qui servent d'assurance sur le risque de crédit. En gros, j'achète une assurance contre le risque de défaut de paiement de cet État ou de cette entreprise, ce qui, en très résumé, revient à dire si cet État fait faillite, c'est pas grave, moi je m'en mets plein les poches puisque je suis assuré dessus. Du coup, tout le monde ment sur son bilan pour éviter que les marchés s'emballent à la hausse ou à la baisse. Mais ce qu'ils nous disent surtout, Gaël Giraud, c'est que les banques se sont permis de jouer en sachant pertinemment que les États seraient là pour combler leurs pertes. C'est ce qui s'est passé en France. Sauf qu'au lieu de nationaliser, les États renflouent en empruntant sur des marchés financiers totalement dérégulés pour aider des banques qui jouent sur ce marché. Comme ces banques vont mal, la situation du pays n'est pas mirobolante, donc les marchés s'affolent et disent « Ouh là là, ce pays va mal, donc va lui prêter de l'argent mais à taux élevé pour nous assurer au cas où il ne pourrait pas rembourser. Donc ça fait gonfler la dette, et si la dette elle gonfle, les marchés ils disent que le pays n'est pas fiable. Et le cercle est sans fin. Privatisation des profits, nationalisation des pertes, tout est là. » Cette même crise a fait dire à une connaissance de Gaël Giraud, je cite, « Mon cher ami, de grandes crises comme celles que nous avons traversées en 2008 sont excellentes, contrairement à ce que vous croyez. Elles permettent d'éliminer les plus faibles et rendent plus forts les survivants. Ou encore, je cite encore, « Jamais les banques n'ont aussi bien travaillé qu'aujourd'hui. » En revanche, la France a un sérieux problème de dette publique. La solution est simple, réduire de 20% les salaires de tous les fonctionnaires, désindexer les retraites de l'inflation et supprimer l'essentiel des remboursements maladie. Fin de citation. Un joli programme qui permettrait à la France d'être notée triple A par un organisme privé qui n'a absolument aucune légitimité démocratique. Mais la France aura renfloué les banques, qui continueront à beaucoup s'amuser sur les marchés, et elle respectera son déficit autorisé par l'Union européenne. Bref, lisez « Illusions financières » de Gaël Giraud. C'est publié aux éditions de l'Atelier. C'est pas toujours simple, mais c'est un éclairage indispensable sur la crise, la dérégulation des marchés financiers et les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour en sortir. Mais là, à moins d'être doté d'un optimisme débordant quant au courage et à la volonté de la classe politique, franchement, ça paraît compliqué.
Mométis, la poésie voyageuse. Je rencontre Timour au café pour une lecture poétique. Timour est d'origine géorgienne. Il est né à Tbilissi pendant que Rostropovitch jouait les suites de Bach au pied du mur de Berlin qui tombait et que commençait l'émancipation des pays de l'Est de la tutelle soviétique. Timour aime la poésie qui réveille en lui des images d'enfance et son lot d'émotions originelles. Il aime la poésie russe et particulièrement celle de Pouchkine. Ce libertin et libertaire métis né à Moscou en 1799 est mort à 38 ans à Saint-Pétersbourg au cours d'un duel pour l'amour d'une femme. Timour va nous lire un extrait du Cavalier de bronze dans sa langue maternelle, le russe. Cette langue slave orientale parlée par plus de 180 millions de personnes a influencé la langue française comme le mot « bistrot » sans le « t » qui veut dire « vite » du fait de l'occupation russe de Paris par les Cosaques après les guerres napoléoniennes. Mais ce terme aurait cependant une origine auvergnate.
Alexandre Sergeïevitch Pouchkine, donc le génie universel, si vous voulez, de la poésie russe. Né en 1799, donc, dans une famille noble de la cour du Tsar, Alexandre Sergeïevitch Pouchkine, depuis son plus jeune âge, est féru de la littérature. Son poète préféré, c'est Derjavin, un autre génie de la littérature russe. Donc, son histoire et surtout son œuvre, il faut le comprendre, sont intemporelles. Le public français peut-être le connaît par les œuvres suivantes. Eugène Onegin, Evgeny Onegin en russe, La fille du capitaine, Kapitanska dochka, La Dame de Pique, Pikavaya Dama. Mais l'œuvre qui définit sa grandeur dans l'esprit des Russes et des russophones, c'est surtout le poème sur le cavalier de bronze, Mednosadny, en version originale. Cette œuvre, elle rend hommage à la ville de Saint-Pétersbourg et elle rend hommage surtout à Pierre le Grand, donc le tsar fondateur de la ville de Saint-Pétersbourg. J'ai choisi cette œuvre parce qu'elle me tient à cœur, car premièrement, c'est une très belle poésie en fait, et on sent le génie des mots en fait de l'auteur. Petersburgская повесть, Медный всадник, Александр Сергеевич Пушкин. На берегу пустынных волн стоял он, думу великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный чон по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, и лес, неведомый лучам, в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он, отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе. Люблю тебя, Петра, творение, люблю твой строгий, стройный вид. Невы, державное течение, береговой, ее гранит. Твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, ясно спящая громада пустынных улиц и светла, адмиралтийская игла. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание. О ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Но знайте, печален будет мой рассказ.
Merci à Timour pour cette jolie lecture du Cavalier des Reins, disponible dans la langue de Molière chez votre libraire préféré. Rendez-vous le mois prochain sur votre radio locale zéphirienne 91.1 ou sur studiosf.fr. Bonne lecture!